Aidez les aidants. Aidez les aidants.
Radio A.info.
Aidez les aidants. C'est tous les jours sur Radio A.info. Radio A.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Aujourd'hui dans Aider les aidants, les familles d'accueil, celles qui à leur domicile reçoivent pour des séjours plus ou moins longs des malades d'Alzheimer ou des personnes souffrant d'autres pathologies. Nous sommes avec Étienne Fromelt, bonjour.
Bonjour Doris.
Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Radio A.info. Vous êtes le président de FamiDAC.
Oui, FamiDAC est une association qu'on a fondée en 97, puisqu'on s'était aperçu que tout le monde connaît l'accueil familial d'enfants, les assistantes maternelles ou familiales, et que par contre, pour tout ce qui concerne l'accueil de personnes adultes handicapées de 18 à 60 ans ou de personnes âgées de 60 à 999 ans, on avait énormément de mal à trouver quoi que ce soit comme information, et même les conseils généraux étaient souvent en difficulté pour répondre à des interrogations sur ce thème-là. Et donc nous avons l'objectif de l'association, c'est de favoriser le développement des accueils familiaux d'adultes handicapés et de personnes âgées. Et entre autres, nous avons créé un site internet qui centralise un peu toutes les informations nécessaires sur ce thème, qui permet la mise en relation accueillant-accueilli, avec un forum qui permet à chacun de poser ses questions et d'y répondre, etc., etc.
Alors justement, il semble que vous soyez très actif sur internet, sur votre site, mais aussi sur le terrain. Combien d'adhérents dans l'association FamiDAC ?
On a un peu plus de 500 adhérents, parmi lesquels quand même 43 associations départementales qui regroupent elles-mêmes tout autant d'adhérents. Donc on a un peu plus de 1000 adhérents directs ou indirects. Sachant qu'il n'y a pas que des accueillants familiaux qui sont adhérents de FamiDAC. On a également des personnes accueillies, des proches ou des personnes accueillies, donc des aidants familiaux, ex-aidants familiaux, des soignants, des tuteurs, des travailleurs sociaux, etc., etc. Donc, en fait, FamiDAC, c'est quand même l'association des accueillants familiaux et de leurs partenaires, puisque un accueillant familial n'est jamais isolé. Forcément, il y a le conseil général qui donne un agrément, il y a des personnes à accueillir, des gens qui les accompagnent, etc. Et c'est tous ensemble qu'on peut faire avancer notre profession et pas les uns contre les autres.
Alors on va en parler justement, comment devient-on, Monsieur Fromelt, de famille d'accueil ?
Le vrai terme, c'est accueillant familial, puisque famille d'accueil est un terme générique qui recouvre tout type d'accueil. Donc pour devenir accueillant familial, il faut demander un agrément à son conseil général, qui fait parvenir un dossier déjà avec plein de pièces à fournir, c'est pas très très compliqué, mais entre autres extrait de casier judiciaire, certificats médicaux comme quoi on n'est pas contagieux ou autre. Le conseil général, au vu de ce dossier, fait une petite enquête sociale, souvent il va voir le maire, il vient visiter la maison, etc., vérifier si le logement est conforme. Et à un délai de 4 mois, à partir du moment où le dossier est complet, le conseil général a un délai de 4 mois pour attribuer ou refuser l'agrément. Cet agrément portant sur l'accueil de 1 à 3 personnes maximum, en fonction de la capacité d'accueil et des compétences ou de la disponibilité de l'accueillant. Voilà, et c'est une espèce de permis de conduire, quoi. C'est pas un examen, c'est pas un concours, c'est plus une enquête sociale et matérielle, quoi.
Et de moralité.
Et de moralité, oui.
Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues ?
Les formations sont à la charge des départements, donc sont variables selon les départements. Ça va de la simple réunion d'information aux 15 jours passés dans des établissements pour personnes âgées ou handicapées, ou alors dans une autre famille d'accueil ou dans d'autres familles d'accueil. Il y a certains départements qui ne font quasiment rien et d'autres qui font non seulement de la formation initiale mais également de la formation continue sous forme du groupe de parole à la formation secouriste, etc. En fait, c'est aussi très variable puisque énormément d'accueillants sont d'anciens travailleurs sociaux ou médico-sociaux. Dans les nouveaux accueillants, on a actuellement une majorité de gens qui étaient auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers, psychomotriciens, psychologues, éducateurs spécialisés, etc. Donc des gens qui ont eu l'expérience, déjà une expérience professionnelle en établissement, et qui en ont marre de faire dans le genre du travail à la chaîne, 2 minutes par patient, et qui se disent bah, plutôt je vais m'occuper correctement de 2 ou 3 personnes à mon domicile et à fond dans une vraie relation humaine et chaleureuse.
Hein. Oui, c'est un vrai choix en fait. Hein. C'est un vrai choix de vie à la fois pour l'accueillant à son domicile, mais aussi pour le faire partager aux patients malades.
Oui, tout à fait. Il y a également pas mal d'accueillants qui, avant d'être accueillants, s'étaient occupés de leurs parents malades, hein, ou d'une tata ou d'un enfant handicapé, et qui ont été sensibilisés au fait que si les établissements apportent une réponse, entre guillemets, souvent aseptisée à leurs problèmes, hein, tout ce qui est chaleur humaine, activité partagée et vraie vie, pas entre malades, mais entre malades et bien portants, c'est stimulant et ça participe à la guérison, c'est-à-dire l'accueil familial, que ce soit une personne Alzheimer ou autre, hein, elle côtoie d'autres gens, des enfants, des animaux, des adultes ou autres, hein, chaque famille est différente, hein, mais il y a une vraie vie où on va éplucher les pommes de terre, où on va au jardin arroser les fleurs, où on va au marché ensemble, hein. On a tout un tas d'activités qu'évidemment un établissement ne peut pas proposer.
C'est une vraie participation à la vie de la famille, en
et
fait.
Oui.
Hein
et ouais. Oui, c'est les papis ou les mamies de la famille. Hein. Et souvent, on s'aperçoit justement que ça éveille, quoi. Ça n'endort pas, ça éveille. Hein.
Vous avez de bonnes expériences à nous raconter ?
Oh ben, il y en a tout plein, je laisse quand même des accueillants s'exprimer sur ce thème.
On va recevoir Corinne Bertrand dans quelques instants.
Voilà.
Et elle va pouvoir nous donner quelques expériences, quelques témoignages. En fait, donc c'est très très positif. Est-ce que ces accueillants sont médicalisés ? Doivent-ils l'être ? Comment ça fonctionne ?
Officiellement, l'accueillant a une fonction hôtelière et une fonction d'accompagnement. Mm-hmm. C'est-à-dire que les personnes sont nourries, logées, blanchies et accompagnées chez nous. Il nous est interdit de prodiguer des soins. Heureusement, les accueillis ne sont pas à huis clos chez nous. L'infirmière vient à domicile, le kiné, le médecin, etc. Ou bien on bouge pour aller au dentiste, chez le coiffeur, etc. Mais le boulot d'accueil, il ne faut pas confondre accueillant et soignant. Hein. Mm-hmm. Le soin prodigué par l'accueillant n'est pas un soin médical, est un soin presque psychologique de stimulation et d'attention et de chaleur humaine.
Un pansement psychologique. Hein.
Voilà.
C'est assez important de préciser la différence. Hein. Donc, ça s'adresse, on va dire, plus particulièrement, on pense aux malades d'Alzheimer, à des personnes qui sont à quelle phase de la maladie ?
En fait, l'intérêt de l'accueil familial est particulièrement évident. Tant que la personne accueillie, quelle que soit sa pathologie, tant que cette personne accueillie peut encore tirer bénéfice hein, de stimulation extérieure. Hein. Le jour où elle se ferme comme une huître hein, sur elle-même, hein, le bénéfice est moins évident. Beaucoup d'accueillants font de l'accompagnement jusqu'en fin de vie, hein, mais il y a quand même certaines limites. Par exemple, quand une personne se met à déambuler jour et nuit, les accueillants, contrairement aux établissements, dans les établissements, le personnel fait les 3-8, il y a une équipe de nuit, des équipes de jour,
pour
etc.
Pour accompagner ces malades.
Mais les accueillants sont quand même censés dormir parfois, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, quand la démence devient vraiment envahissante, hein, là, c'est difficile, quoi. On boucle pas les patients, les accueillis dans leur chambre, hein. Il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, hein. Donc, qu'on retrouve l'accueilli en pyjama à 3h du matin dans le jardin, c'est pas trop grave s'il y a un portail qui évite qu'il aille à l'autre bout de la ville. Mais enfin, les accueillants rencontrent un peu les mêmes problèmes que tout aidant familial. Et voilà, c'est comme si on avait nos propres parents chez nous. Il y a les mêmes limites pratiquement que les aidants. La grande différence avec un aidant familial, c'est que nous, c'est notre métier et qu'on est 24 heures sur 24 sur place, quoi. On va pas travailler ailleurs en laissant papy ou mamie tout seul.
Oui, tout à fait. On va en parler avec Corinne Bertrand qui vient de nous rejoindre. Bonjour Madame Bertrand.
Oui, bonjour Madame.
Merci d'être avec nous sur radioa.info. Vous êtes en Ardèche.
Oui.
À quel endroit exactement ?
Je suis à Saint-Symphorien de Mahun. Donc au-dessus de Satilleux, secteur Annonay.
D'accord, Madame Bertrand. Et vous recevez des malades Alzheimer à votre domicile ?
Oui.
Alors pourquoi déjà vous êtes orientée vers ces pathologies ? Vous aviez au départ une formation particulière ?
Alors, non, je n'avais pas de formation particulière. Par contre, j'avais une grand-mère qui est décédée maintenant et qui était complètement paralysée. En fin de vie, elle commençait un petit peu à perdre la tête aussi, donc malheureusement. Et donc, si vous voulez, moi, depuis l'âge de 12 ans, je me suis occupée de ma grand-mère.
Vous aviez donc une approche de la maladie.
Voilà, tout à fait. Hein, et j'ai vécu avec elle jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a 3 ans, parce qu'elle est décédée il y a 3 ans. Et je me suis occupée d'elle. Ensuite, à son décès, j'ai eu une dame qui avait la maladie d'Alzheimer et qui m'a appelée au secours parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Donc, je suis allée la chercher et je me suis aperçue que, bon, elles avaient énormément besoin d'attention,
de présence.
Et de présence, surtout, parce que la plus grosse angoisse pour eux, c'est d'être seule. C'est d'être seule, de ne pas savoir, bon, c'est vraiment la plus grosse angoisse qu'ils ont chez eux. Dans cette maladie, c'est ça, hein. Et donc après, ben, j'ai continué avec d'autres personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et ce qui est super, c'est que bon, en famille d'accueil, il n'y a pas de régression.
Il n'y a pas de régression. Alors à partir de quel moment accueillez-vous les malades chez vous ?
Ben moi, elles sont quand même très dépendantes puisque ce sont des groupes 2.
Ouais.
Donc les JR2, ce sont quand même des pathologies quand même assez lourdes. Donc ce sont des personnes qui ne se lavent pas, qui ne s'habillent pas, qui ne mangent pas toutes seules, qui font rien toutes seules, qu'il faut surveiller en permanence parce que bon, elles font beaucoup de bêtises, hein, qui se déshabillent, qui font que des bêtises.
Des fugues, ça peut être ça aussi.
Alors, eh ben, les fugues, curieusement, quand les personnes sont arrivées chez nous, on nous a dit, méfiez-vous, elles s'en vont. Elles fuguent. Eh ben, méfiez-vous, moi j'ai voulu bien me méfier, ma porte n'est jamais fermée à clé, à part la nuit, hein, et elles ne sortent jamais. Leur repère, c'est nous. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas à sortir. Ou alors, si elles vont à la porte, elles vont, elles ouvrent, c'est ouvert. Ça les rassure, elles referment. Contrairement à ce qu'on peut voir donc dans les cantous, je n'ai rien contre les cantous, hein, mais comme c'est fermé, eh ben c'est une angoisse. Ils vont essayer d'ouvrir
peut-être,
le sort, c'est fermé.
Donc là, vous pensez que vous avez pu les sécuriser ?
Tout à fait. J'en ai 3, et sur les 3, il n'y en a pas une qui tente de se sauver. Mais pas une. Alors qu'on m'avait prévenu, attention, elle fugue, faites très très attention à ça. Eh ben non. Je n'ai aucun souci par rapport à ça.
Alors comment se passe votre quotidien, Madame Bertrand, donc avec ces malades, puisque vous êtes à leur côté ben presque 24 heures sur 24.
Tout à fait. Donc le quotidien, donc ça démarre assez tôt le matin, 7h30, la première commence à se manifester. Donc c'est le lever, c'est la toilette, c'est l'habillage, c'est le petit déjeuner. Ensuite c'est la deuxième, et on rebelote, et ainsi de suite, pendant jusqu'au 3. Après, ben, c'est l'entretien de la maison, donc les chambres. Tout le reste, hein, le repas et tout ce qui s'ensuit, essayer de les occuper entre temps, mais bon, Alzheimer, c'est pas facile, surtout à ce stade-là. Hein, donc elle regarde les livres, elle commente les livres, il y en a une qui regarde un peu la télévision, mais elle fait beaucoup de commentaires, ça la fait plutôt rigoler en fait, hein. Et donc voilà. Autrement, elles prennent les repas avec nous, évidemment. On les aide à manger parce que bon, on mange la soupe à la fourchette, on fait des trucs comme ça, on verse le verre d'eau dans la serviette, voilà. Ensuite, bon, on essaye de les occuper un petit peu l'après-midi.
Vous faites des ateliers peut-être ?
Non, pas d'atelier. On ne fait pas d'atelier parce que je me suis rendu compte, quand on essaye de leur faire quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, c'est la catastrophe.
Elles paniquent peut-être, oui.
Voilà, c'est la panique. Non seulement c'est la panique, mais c'est pas des trucs qu'elles avaient peut-être l'habitude de faire à la base. hein, donc elles sont pas habituées. Bon, je vais sortir un jeu de société, j'en ai une qui va me manger les pions.
Mm-hmm.
Donc je peux pas. On peut pas faire un truc comme ça, elles savent plus. Hein. On essaye de les faire écrire, ça bloque tout. Du coloriage, ça bloque tout. Elles sont bloquées par rapport à ce genre de choses. On n'arrive pas à les occuper. Donc, elles participent à la vie de famille. On regarde, on discute, on commente les choses ensemble. On va se promener.
Oui, vous sortez avec vos pensionnaires.
On sort. Ah, mais c'est pas triste, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas triste parce que j'en ai une qui commente tout. T'as vu cette grosse vache? T'as vu? Et elle parle comme si elle s'entend pas, donc elle fait des commentaires et puis bah il y a les gens qui nous regardent et donc il faut assumer aussi les autres.
Ah voilà, c'est ça, le problème il est là, effectivement.
Voilà.
Au niveau du regard des autres qui eux ne savent pas
ce
qu'est la maladie.
Ouais. C'est assez comique en fait, donc puis il y en a une autre, dès qu'on s'arrête pour discuter avec quelqu'un, elle nous tire, allez on s'en va. Bon bah oui, bah dans les magasins, j'en ai une qui poussait le chariot, arrivait à la caisse, elle est passée direct.
Effectivement.
Moi, je trouve ça super. Donc,
vous avez dû expliquer à la vendeuse le pourquoi et le comment,
j'imagine. Ouais, mais je le sais, donc. Donc, c'est assez marrant, quoi. Donc, j'essaie toujours de prendre toujours les mêmes repères, donc voilà. Et autrement, bon, en fin de journée, alors moi, je fais les choses un petit peu à l'envers des maisons de retraite ou des cantous. C'est qu'en fin de journée, comme c'est un moment qui est très angoissant pour l'Alzheimer, je leur fais prendre leur douche le soir.
Mmh.
Vers les 5h, 17h, je leur fais prendre leur douche, ça les calme.
Pour la soirée, ça prépare la soirée. Oui.
Voilà, mmh. Ça les calme. Elles savent que bon, elles n'ont plus à partir parce que bon, souvent, bah, elles veulent retourner chez leur maman, elles veulent prendre le train, des trucs comme ça. Donc hop, le pyjama, ça calme tout.
C'est vous qui avez trouvé, j'allais dire, cette astuce.
Tout à fait.
Avec votre expérience.
Tout à fait. Avec mon expérience. Bon, le soir tombe, forcément, il y a une angoisse. Il fait nuit, comment je vais faire pour rentrer? Et ben voilà, on prend la personne, on l'amène à la salle de bain, c'est une pièce fermée avec la lumière synthétique. Donc quand elle ressort, elle s'est pas rendue compte que la nuit est tombée. Ça a tout calmé.
Mmh.
Et ça, c'est super. Et après, bon, ben tant pis, si elle mange en chemise de nuit ou avec une robe de chambre, c'est pas dramatique, hein. Mais bon, elles se sont calmées. Et l'angoisse est partie.
D'accord.
Et moi, je trouve ça super.
Ah, mais là, vous avez trouvé la solution, en fait.
Oui, moi, j'ai trouvé la solution pour les personnes que j'ai. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Et puis, curieusement, elles ne se dégradent pas. Elles n'ont pas évolué dans leur maladie.
Ça, c'est vous qui l'avez constaté? Oui. C'est aussi les autres membres de la famille?
Les autres membres aussi l'ont constaté. J'ai eu des personnes qui sont arrivées et qui sont parties peut-être au bout de 6 mois, hein, parce que, bon, c'est vrai que financièrement, c'est pas non plus donné. Hein.
On va en parler avec Monsieur Frommelt, hein. Vous êtes toujours avec nous. Hein.
Oui, oui.
On va parler du coût de ces familles,
oui.
pour les familles des malades.
Hein. Voilà. Et donc, bon, ben voilà,
Et donc, vous n'avez pas vu d'évolution négative. C'est une stabilisation, en fait, de la maladie.
Absolument.
Mm-hmm.
Absolument, absolument, absolument. Et puis, bon, là, c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours nous qui nous occupons d'elles. C'est-à-dire, c'est pas un coup, un matin, c'est une dame. Le matin d'après, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, le week-end, c'est encore quelqu'un. Non, c'est toujours moi.
Alors, vous êtes combien dans la famille à vous occuper de vos pensionnaires? Il y a
Marie
donc
et moi.
Tous les deux?
Tous les deux.
À temps plein?
À temps plein.
Les enfants, peut-être aussi?
Non, les enfants ne sont plus là. Les enfants sont majeurs, ils ont chacun leur vie, donc ils ne sont pas présents, quoi.
Ouais.
Ils viennent de temps en temps, mais assez rarement, parce qu'ils sont assez loin. Donc, voilà.
Mais c'est énormément d'investissement.
C'est énormément d'investissement. Le très gros problème, c'est les remplacements. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de remplacement pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je trouve que c'est très, très dur. Il y a 2 ans, on est parti en voyage de noces. Quand on est parti, on a une qui, le jour, l'heure après, elle s'est arrêtée de manger, de parler, de boire et de faire tout ce qu'il fallait.
Elle était restée chez vous avec...
Oui, avec une dame qui nous a remplacés pour 10 jours.
Mm-hmm.
Ça a été une catastrophe. La deuxième, elle ouvrait toutes les portes. Et où elle est partie, la petite? Et où elle est, la petite? Et où elle est, la petite? En parlant de la petite, c'était moi.
Mm-hmm.
La dame, elle me dit, je t'aurais rappelé parce que j'y arrivais plus. Personne ne voulait dormir.
Ah oui.
Ça a été une catastrophe.
Déstabilisée.
Complètement. Donc là, on envisage de prendre une semaine de congé. On ne va pas les placer. On aurait la solution de les mettre en milieu hospitalier pour une semaine ou 15 jours. Je refuse. Je les emmène avec moi.
Ah, vous partez en vacances tous ensemble?
On va les emmener avec nous. Là, j'ai dit, je refuse de les laisser. Ça les déstabilise et ça aggrave la maladie. Donc, je ne suis pas d'accord. Donc là, on les prend. On va les emmener avec nous. Donc, on a réservé quelque chose sur le Gros du Roi, là. Et on va les emmener avec nous. Et puis, ma foi, elles ne seront pas déstabilisées, quoi. On sera toujours là pour nous en occuper.
C'est terriblement généreux et peut-être difficile aussi, parce que le fait de les déplacer, de changer d'environnement, vous pensez que ça peut avoir des conséquences?
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je prends un exemple tout bête. Quand il y en a une qui est malade, qui est obligée de passer par le milieu hospitalier, le retour est dramatique.
Mmh.
Là, il y a une petite régression. Très vite, elles reprennent leur rythme, hein, mais on voit qu'elles sont très déstabilisées.
Eh oui.
Ça, c'est clair. Hein.
Mais vous sentez qu'elles ont besoin de vous, en fait?
Oui, tout à fait.
Elles se sont attachées à vous, votre mari, qui les accompagne au quotidien.
Alors, les bisous, ça pleut sans arrêt ici. Elles nous font des bisous, des baisements, des trucs comme ça, des commentaires, plein de choses comme ça. Mais elles rigolent avec nous, donc c'est extra, quoi.
Joie de vivre, on le sent à votre voix,
oui,
Madame Bertrand.
Ouais. Mais moi, je suis passionnée par ce que je fais. Et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette option pour travailler, quoi.
Et elles vous le rendent bien,
on
dirait.
Ah oui,
hein.
Tout à fait.
Et comment ça se passe, les relations avec les familles des malades?
Alors, les familles des malades, il n'y a pas de souci pour une. La deuxième, elle n'a plus de famille. En fait, elle a 4 enfants et je me bats pour essayer de retrouver ses enfants pour faire une demande de recherche. J'ai fait une demande de recherche dans l'intérêt des familles,
hein, mmh.
Et malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Parce que j'aimerais bien quand même savoir, parce que bon, la dame que j'ai, là, c'est une Arménienne à la base, qui parle très peu le français,
ah
et
oui.
Que j'arrive à comprendre malgré tout, parce qu'à force, bon, on arrive à comprendre, hein. Et je me suis renseignée sur plein de petits mots, donc maintenant on y arrive. Et donc j'essaye de trouver les enfants, parce qu'elle, elle nécessite quand même le besoin de temps en temps, elle appelle ses enfants, et ses enfants, ça se trouve, ne savent pas où elle est. Et qui cherchent aussi pour savoir où elle est passée.
Mmh.
Le problème, c'est que j'arrive pas à faire la démarche comme il faut, je sais pas, c'est un peu long, donc on verra. Et quant à la troisième, il n'y a pas de souci. Donc, ses enfants viennent la voir, son mari, il n'y a aucun souci.
Est-ce qu'ils la prennent de temps en temps chez eux?
Jamais.
Non.
Jamais, 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 jamais. Ni même aller faire une petite promenade à l'extérieur, jamais. J'ai une personne, je peux dire son prénom?
Oui, bien sûr.
Donc, Suzanne, quand sa famille vient, de toute façon, elle ne s'occupe pas de sa famille. C'est moi qu'elle regarde parce qu'elle est sécurisée.
Oui. Mmh. Et comment les autres membres de la famille le vivent, ça? Ils vous en parlent ou alors c'est quelque chose qu'ils n'osent pas aborder parce que quelque part, vous avez remplacé la famille, vous avez remplacé la fille ou peut-être un peu le conjoint, etc.
Oui, je comprends. Écoutez, il n'y a pas de réflexion particulière. Par contre, les gens partent rassurés.
D'accord. Ils voient qu'elle est bien, en sécurité.
Absolument.
Il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord.
Non. Mm-hmm. Non, absolument pas. Et on sent quand même une certaine sérénité quand ils partent de la maison. Ça fait du bien de la voir comme ça. Alors que bon, c'est arrivé qu'ils aillent la voir en milieu hospitalier où elle était complètement perturbée.
Perdue.
Ouais. C'est bon. Voilà quoi. Donc non, il n'y a pas de rivalité avec la famille. Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré ce genre de problème. Ça pourra peut-être venir, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, non.
Madame Bertrand, ces pensionnaires, là, ces membres de votre famille, on peut le dire maintenant, puisque vous formez une petite famille, vous les gardez jusqu'à quel stade?
À fin de vie.
Jusqu'au bout.
J'ai fait une fin de vie.
Mmh.
J'ai fait une fin de vie. Pour une personne également qui était Alzheimer et Parkinson. La famille s'est battue pour qu'elle reste à domicile, donc chez moi, pour faire l'accompagnement de fin de vie. Ils se sont battus avec les médecins qui refusaient, les médecins refusaient qu'elle reste ici par rapport aux soins. Mmh. Il a fallu qu'on trouve une infirmière dévouée pour venir faire les soins qu'il fallait faire. Hein. Et la famille s'est battue en disant « Je refuse qu'elle aille en milieu hospitalier, je veux qu'elle reste chez Madame Bertrand. »
D'accord.
Et donc, ces gens-là, ils sont restés sur leur position jusqu'à la fin de vie. Et le jour du décès, si vous voulez, je me suis aperçue au bout de, une heure avant qu'elle décède que bon, c'était pratiquement la fin. Et je suis restée en contact pendant une heure avec la famille pour qu'ils puissent participer à la fin de vie de leur maman.
Mmh. Par téléphone, voilà, c'est
ça ? Par téléphone, tout à fait. J'avais branché le haut-parleur. Et donc, on est resté comme ça pour que ils puissent participer à ça, quoi. Et ces gens-là sont vraiment très reconnaissants. On a gardé un lien vraiment très,
très fort.
Très fort, quoi.
Ouais.
Je vous en parle et j'en ai la chair
ouais,
de poule.
Ouais,
parce que
ouais,
c'est quelque
comprend.
Chose qui m'a beaucoup émue. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée qu'on me fasse autant confiance. Voilà, donc moi, je suis partante pour les garder jusqu'à leur fin de vie. Faire leur fin de vie, et puis voilà.
Vous avez une formation particulière pour ça, Madame Bertrand ?
Je crois que la formation, elle se fait sur le tas, et je crois qu'il faut surtout... c'est quelque chose qui... C'est une vocation. Je pense que c'est une vocation. Et du bon sens.
On le sent, là. Et avec votre mari, vous partagez tout à fait les mêmes valeurs.
Absolument, oui. Absolument.
Monsieur Fromelt, juste une question d'un de nos auditeurs, une auditrice par conséquent qui habite en Lozère, Paul, qui nous demande eh bien, précisément quelle est la formation requise pour être accueillant.
Je parlerai plutôt de compétences ou de qualités requises.
C'est ce que nous
disait
Madame
accueillant.
Bertrand, ouais.
En fait, la première des conditions pour être accueillant, à mon avis, c'est d'avoir du bonheur à partager. La deuxième condition, c'est d'avoir... de l'espace, hein, d'avoir des chambres disponibles. Hein. Et après, en plus, il faut évidemment beaucoup de bon sens, hein, une qualité aussi de ménagère, hein, de gestionnaire d'une maison.
Maîtresse de maison, oui.
Dans tous les cas, ouais. En fait, c'est surtout des qualités de cœur. Et tout s'apprend à mesure. Hein. Il n'y a pas de formation standard. Déjà, je précise que toutes les familles sont différentes les unes des autres. Hein. C'est pas comme les établissements qui sont très normalisés et où le personnel tourne. Hein. Chacun a son style de vie, son expérience de vie, son endroit, son lieu de vie. On peut pas mettre n'importe qui chez n'importe qui. Certains accueillants ont des expériences, comme je le disais tout à l'heure, ont des expériences professionnelles, hein, et des qualifications professionnelles qui leur sont précieuses. Hein.
Mm-hmm.
D'autres n'ont que des expériences personnelles. Hein. Et font également, le cas échéant, d'excellents accueillants. En fait, surtout, puisque on n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas un rôle de soignant, hein, on n'est pas des travailleurs médicaux. Oui, donc, au niveau des formations, c'est
plutôt... Il n'y a pas de formation particulière, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation.
Chaque département, la loi a délégué au département la charge des formations. Et donc, dans chaque département, les critères ou les formations proposées sont différentes. Une excellente formation aussi, c'est d'être remplaçant d'accueillant. Madame Bertrand parlait de la difficulté à trouver des personnes pour se faire remplacer, et encore plus pour des accueils d'Alzheimer, hein, vu l'attachement de ces personnes à leur accueillant. En fait... on a des nouveaux accueillants qui ont fait avant une espèce de compagnonnage, hein, en proposant leur service à d'autres accueillants, à des accueillants familiaux agréés.
Ouais, ça permet d'avoir une expérience.
Voilà, le remplaçant n'a pas besoin d'être agréé, il est placé sous le contrôle du conseil général qui vérifie si tout se passe bien, mais il n'a pas besoin d'avoir un agrément tant qu'il n'accueille pas chez lui. Et pour moi, c'est une excellente forme de formation. Ce qui n'interdit pas ensuite, hein, en fonction du type d'accueil qu'on veut pratiquer, du public qu'on a envie d'accueillir et de ses spécificités, de suivre des modules de formation spécifiques, hein, à ces thèmes, que ce soit sur les problèmes physiques ou les problèmes de manutention ou les problèmes de soins, de secourisme, hein, ou les problèmes psychologiques, hein. posées par les personnes accueillies. Il y a des actions de formation qui sont déjà organisées pour les auxiliaires de vie, pour les aides-soignants, pour les personnels d'établissement, qui peuvent s'ouvrir, hein, aux accueillants, juste pour l'espace d'une journée ou
voilà,
d'une semaine,
certains,
hein.
Sur certains thèmes.
Voilà.
Tout à
et
fait.
Donc, personnellement, enfin, au niveau de l'association, on préconise vraiment la formation à la carte. Hein. Il ne s'agit pas de faire bouffer, entre guillemets, à tout le monde, hein, les mêmes formations, surtout que chacun d'entre nous a eu ses expériences,
ouais.
Son parcours et ses compétences initiales, quoi.
D'accord. Voilà, Paul, j'espère qu'on a répondu à votre question, vous qui nous écoutez en Lozère. Merci de continuer à nous poser vos questions, vos témoignages également sur notre site www.radioa.info. Madame Bertrand, on vous rend à vos pensionnaires, elles vous attendent?
Oui, ben elles sont là à côté de Paul. Il y en a une qui joue avec ses poupées, l'autre qui lit ses journaux. Voilà, je suis à côté, donc elles ne sont pas perdues.
Merci beaucoup. On peut vous contacter éventuellement, Madame Bertrand, par le biais du site Famille DAC?
Tout à fait, madame.
Voilà, donc si vous êtes intéressée par l'accueil à domicile ou par l'expérience de Corinne Bertrand. Étienne Fromelt, vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve dans un petit instant, juste après ceci.
Débat sur les prix bas avec Carrefour.
Débat du jour, les fruits et légumes.
Ah, c'est bon pour la santé?
Ouais. Et si c'est pas cher, c'est pas bon.
Faux. Chez Carrefour, les primeurs sélectionnent les fruits et légumes pour leur goût et qualité. Comme les tomates rondes, elles sont fermes, juteuses.
Et sûrement très chères.
Non, 1,20€ le kilo. Ah, bon, ah, alors on dit plus rien.
Voilà. Vous garantir les prix bas et bien plus encore, Carrefour, la qualité pour tous. LCL Banque Privée. Demandez plus à votre banque privée.
Les prix des blocs, on les bloque. Champion est la seule enseigne à avoir réagi aussi vite. Les prix de 1000 produits Champion sont bloqués depuis le 1er janvier et ils le resteront jusqu'au 30 juin. 1000 produits Champion à prix bloqué, c'est top.
Et quand les prix de 1000 produits Champion sont bloqués, les bonnes affaires défilent.
Champion, plus facile la vie.
Il y a la vie sans bleu ciel d'EDF. Et aujourd'hui, il y a la vie avec bleu ciel d'EDF.
Faites le choix d'une énergie solaire. Avec le nouveau service Conseil Énergie Solaire, Bleu Ciel d'EDF vous propose de devenir producteur d'énergie solaire chez vous. Pour un conseil personnalisé et gratuit, appelez Bleu Ciel d'EDF au 39 29, prix d'un appel local. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Bleu Ciel d'EDF, l'avenir est un choix de tous les jours.
Media Meeting innove une fois de plus et lance Mobile Meeting. SMS, MMS, tag, Visio 3G, nos consultants sont à votre disposition pour tous vos besoins marketing direct sur mobile. Avec Mobile Meeting, les campagnes marketing direct les plus efficaces ne sont plus seulement réservées aux grandes marques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 0826 30 19 44 ou par mail à contact@mobilemeeting.fr.
Aidez les aidants, c'est tous les jours sur radioa.info. Radioa.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Et tous les mercredis, Déborah Fiori nous parle de vie pratique et d'aménagement de la maison. Aujourd'hui, place à la cuisine, l'aménagement de la cuisine pour les personnes Alzheimer. Bonjour Déborah.
Bonjour. L'aménagement de la maison est vital. Le domicile, notre petit nid douillet, peut en effet rapidement devenir un enfer en cas de maladie et de perte de mémoire. Il existe des solutions simples, parfois un peu coûteuses, mais qui peuvent permettre à une personne de rester chez elle ou dans la maison d'approche plus longtemps. Pour faciliter sa vie, pas le choix, il faut virer le superflu et mettre sous clé les produits les plus dangereux. Nous commençons aujourd'hui par la cuisine en éliminant en premier lieu les risques de brûlure. Il faut enlever le four, qu'il soit traditionnel ou micro-ondes, ou le mettre hors service. Vous pouvez pour cela faire appel à un électricien ou à votre réparateur. Remplacez les plaques au gaz par des plaques électriques. À ce propos, sachez que les plaques à induction sont très pratiques car elles ne chauffent que lorsqu'elles sont en contact avec la casserole. Elles coûtent un peu plus cher que les autres, mais vous éliminez un risque d'accident majeur. Autre accident potentiel, l'électrocution. Globalement, branchez tous vos appareils électriques à des rallonges dont vous cacherez l'embranchement. Pour éviter toute intoxication, mettez sous clé les produits de nettoyage, détergents, cire, produits vaisselle, lessive, javel ou encore engrais. À côté de cela, jetez un œil sur le réfrigérateur. La personne malade ne vérifie pas les dates de péremption. Faites-le régulièrement à sa place et jetez les denrées au fur et à mesure. Éliminons à présent les risques de blessures. Mettez les couteaux pointus hors de portée, de même que les robots mixeurs. Sachez que si vous peignez en noir un placard pour y ranger ces éléments dangereux, le malade ne l'ouvrira pas. Évitez la vaisselle avec des dessins dessus, car le malade ne sait plus ce qu'il peut manger ou pas. Du coup, il risque de creuser l'assiette en prenant les petites fleurs pour de la nourriture, ou bien il peut les confondre avec des taches et chercher à nettoyer à outrance. Un conseil, prenez de la vaisselle unie, de même que les nappes et serviettes et les rideaux. Enfin, pour que la personne puisse évoluer plus aisément, ne laissez pas la table au milieu de la pièce, mais placez-la sur un côté et prenez garde à la chaise, qu'elle ait si possible des accoudoirs pour aider la personne à se lever, et vérifiez que les pieds ne soient pas orientés vers l'extérieur, ce qui pourrait provoquer des chutes. Dans l'idéal, il faut que les pieds soient dans le prolongement de l'assise de la chaise.
Merci beaucoup, Déborah. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour nous parler d'aménagement de la maison.
Aidez les aidants, c'est tous les jours sur Radio A.info. Radio A.info.
Ensemble contre la maladie d'Alzheimer.
Aujourd'hui, dans Aider les aidants, les familles d'accueil. Comment devenir accueillant? Combien ça coûte? On va le voir avec Étienne Fromelt, le président de l'association Famidac. Les accueillants familiaux sont-ils assez nombreux? Monsieur Fromelt, vous êtes toujours avec nous sur Radio A.info.
Oui, officiellement, nous sommes à peu près 10 000 accueillants familiaux en France.
Hein. Ouais.
10 000 accueillants familiaux agréés. Ça, c'est les chiffres de la DGAS, la Direction Générale des Affaires Sociales. Hein. Dans la réalité, on le sait pas exactement. C'est comme un peu si on disait, il y a 10 000 personnes qui ont un permis de conduire. Après, il faut regarder combien de personnes conduisent réellement. Et on a d'autres chiffres récemment fournis par l'IRSEM qui pratiquement donnent 4 000 à 5 000 accueillants familiaux réellement en activité mi-2006. Donc c'est notoirement insuffisant. Et c'est dû aussi au fait que dans certains départements, il y a près de 500 accueillants familiaux, par exemple dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. Et dans d'autres départements, particulièrement en périphérie de l'Île-de-France, on a des départements avec zéro accueillant ou un accueillant, comme Paris vient d'agréer sa première accueillante familiale récemment, en décembre dernier. Donc l'accueil familial est surtout développé en secteurs ruraux ou à la campagne ou dans les villages, entre autres, déjà parce qu'il y a une tradition d'accueil dans les campagnes. Et aussi, ça peut être dû au coût et à l'exiguïté des logements en secteur urbain.
Mm-hmm.
Les loyers sont très chers et on a du mal à trouver une maison vraiment spacieuse.
Ouais, c'est plus facile d'accueillir dans une grande bâtisse à la campagne que dans un appartement.
Alors, je ne que même un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui avaient 2, 3, 4 enfants, une grande maison adaptée à une grande famille. Lorsque les enfants sont partis, certains deviennent accueillants. Ils disent voilà, la maison est grande, je ne veux pas déménager, tant qu'à faire, je vais avoir mon emploi à domicile, quoi.
Alors, on parlait des départements ruraux. Je pense que la Creuse en est un. Vous n'allez pas nous en vouloir, Madame Boire.
Non.
Vous êtes à la campagne. Merci, Martine Boire, d'être avec nous sur Radio A.info. Vous êtes donc accueillante familiale dans la Creuse. Et vous avez d'ailleurs créé un site où l'on trouve toutes les infos pratiques concernant l'accueil familial, familleencreuse.org. Alors, qui accueillez-vous à votre domicile?
Alors moi, dans l'immédiat, j'ai des personnes, je préfère des personnes qui ont des atteintes graves du cerveau.
Ouais.
Donc j'ai une personne qui souffre d'une amnésie due à un herpès méningé. Et puis j'ai une autre personne qui a eu un AVC.
Mm-hmm.
Voilà, il m'est arrivé d'avoir une personne qui était atteinte d'une maladie, qu'on va dire mi-Alzheimer, mi-Parkinson. Qui était assez rigolo parce qu'elle me faisait un panaché des deux et j'ai des souvenirs très émouvants de l'accueil de cette personne.
Alors quels sont vos rapports justement avec tous ces malades?
Eh ben, nos rapports, ce sont des rapports familiaux, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à la famille comme, comme étant, on peut pas dire véritablement des parents, mais comme des intimes. Des personnes qui partagent notre vie quotidienne, pour qui on essaye de, sinon de, d'éviter la perte de mémoire, de, voilà, de conserver au moins ce qui leur reste, voire essayer de leur faire progresser, de retrouver, de travailler pour retrouver une autre mémoire, parce que le cerveau était constitué de plusieurs mémoires, et il y a des fois des possibilités de récupérer des petites choses ailleurs.
Vous l'avez constaté, ça, de quelle façon ?
Je l'ai constaté de plusieurs façons, déjà d'une façon physique. J'ai récupéré deux personnes, donc le monsieur qui avait un AVC et puis mon petit papy qui avait Parkinson. Ils sont arrivés tous les deux en fauteuil roulant.
Mm-hmm.
Et on a récupéré la marche.
Ah oui.
Donc c'était pas une marche c'est pas une marche qui est assurée bien sûr, mais c'est toujours ça. C'est déjà c'est-à-dire qu'on a reverticalisé les gens. Et puis bon ben pour Christian qui a eu une méningite, lui ben on a retrouvé petit à petit, il avait plus de mémoire instantanée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il faisait les choses, il les perdait immédiatement, et au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que maintenant on arrive à avoir une durée, on va dire, de mémoire instantanée qui va, on va dire, dans le quart d'heure. C'est-à-dire que là où il perdait en 30 secondes les informations, maintenant il met un quart d'heure pour les perdre.
Vous avez une...
Ce qui lui permet de pouvoir, pouvoir accomplir des tâches, pouvoir avoir un suivi, organiser certaines tâches, des choses comme ça.
Mais vous connaissez bien ces maladies, Madame Bouard. Vous avez suivi, j'allais dire, des formations, vous êtes documentée.
Oui, je me suis documentée. Je me suis documentée parce que c'est des pathologies qui me plaisent. Parce que je supporte pas d'imaginer qu'une personne puisse devenir une plante verte.
Mmh.
Et par conséquent, j'ai tenté de me documenter, d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire, ce qui était possible, et puis de travailler là-dessus.
Et avec ces malades, vous avez pu réussir à instaurer ou à restaurer une vraie qualité d'échange malgré la maladie?
Oui, alors c'est un échange qui est, on dira, un échange non verbal, plus qu'un échange verbal.
Ouais.
Et on arrive à avoir, oui, une vraie qualité d'échange.
Vous avez combien de personnes à votre domicile en ce moment ?
Alors en ce moment, j'ai deux personnes et j'ai un accueil temporaire.
D'accord, un accueil temporaire, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'accueille des personnes pour que les familles naturelles puissent de temps en temps prendre un peu de répit.
D'accord, il y en a peu. Peu en France, Monsieur Fromel, c'est des accueils temporaires, des accueillants familiaux temporaires, il y en a peu.
Ça se développe petit à petit, puisque le besoin existe. Les aidants familiaux ont besoin de souffler de temps en temps, ou
ouais,
de partir eux-mêmes en vacances. Et du coup, l'offre d'accueil temporaire se développe, mais la plupart, pour un accueillant agréé, c'est difficile d'arriver à vivre financièrement uniquement d'accueil temporaire ponctuel, du week-end aux petites vacances, l'accueil temporaire, ça va de la journée jusqu'à un deux ou trois mois, quoi. Et donc c'est un revenu relativement aléatoire, c'est ce qui freine un peu le développement de cette solution. Mais tout de même, on a pas mal d'accueillants qui maintenant font comme Madame Bertrand,
Madame
Bouard plutôt,
ouais,
que je salue au passage, son association fait partie de Famidac, qui ont deux places en accueil permanent et une place en accueil temporaire où ils accueillent différentes personnes à différents moments, quoi. Cette place n'est pas toujours occupée. Là, ça permet de tenir le coup,
Il y a un thème qu'on n'a pas abordé, c'est une question sur notre site www.radioa.info que vient de nous poser un de nos auditeurs, Jean-Marc, qui habite à Lyon. Jean-Marc nous demande tout simplement combien ça coûte de pouvoir, mettre en famille d'accueil son parent. On peut donner une fourchette, peut-être.
On peut donner une fourchette, oui, parce que le tarif minimum d'un accueil familial, c'est à partir de 1 200 € par mois, à peu près, charges comprises. Dans la réalité, surtout pour des personnes atteintes d'une maladie de type Alzheimer, il y a des suggestions particulières. Donc on est plutôt entre 1 500 et 2 000 € par mois, soit un peu plus de 50 € par jour.
C'est le prix à peu près d'une institution. Hein. On est dans la même fourchette.
À peu près. Je ne connais pas bien le prix des institutions.
Mmh, c'est ça, oui.
En fait, ce prix comprend le salaire de l'accueillant, qui est au minimum de 2,5 SMIG horaires par jour. Donc, c'est pas grand-chose. Hein. Ça fait même pas 20 euros par jour. S'y ajoutent des suggestions particulières hein, qui sont proportionnelles au niveau de dépendance de la personne accueillie. S'y ajoutent des remboursements de frais d'entretien, c'est en fait la nourriture, l'électricité, l'eau, le chauffage, etc., le lavage du linge, hein, et une participation au loyer, le loyer de la chambre qui est réservé à la personne accueillie, sachant que cette personne accueillie a accès également aux parties communes de la maison, hein, salon, cuisine, jardin, véranda, etc. Ce qui explique que les tarifs sont variables, hein. Donc non seulement en fonction de la dépendance du niveau de dépendance de la personne accueillie, mais aussi en fonction du lieu d'implantation de cet accueil. Hein. C'est sûr qu'en ville, l'accueil sera plus onéreux qu'à la campagne. Hein. Donc enfin, ce qu'il faut retenir, c'est à partir de 50 euros, ça se négocie entre l'accueillant et l'accueilli ou son représentant légal. Et le conseil général détient un pouvoir de contrôle sur certains aspects.
Pour qu'il n'y ait pas d'abus, bien sûr.
Oui, ces tarifs sont fixés par un décret. Hein. Donc, ils nous donnent des fourchettes. Hein. Mm-hmm. Pour le salaire, il y a un minimum, mais il peut être augmenté. Et pour les remboursements de frais, par exemple, on ne peut pas demander n'importe quoi. Hein. Il y a des fourchettes. Hein.
Et vous nous disiez, en deux mots, le salaire de l'accueillant, une vingtaine d'euros par jour.
Oui.
À multiplier par le nombre de personnes accueillies.
Voilà. Mais
Madame
si on tient au minimum à 2,5 heures de SMIC par jour, donc une vingtaine d'euros, même en accueillant trois, ça fait pas 60 euros. C'est, disons, on devient pas accueillant pour faire fortune non
ouais,
plus.
C'est hein. Ça, Madame Boire. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est pas une question d'argent. Hein. C'est pas pour l'argent.
Non, je pense que si des familles d'accueil se créent pour avoir un revenu financier important, ouais. Elles vont être vite déçues et vite abandonner le métier. Oui, bon, disons qu'on est smicard, quoi, en gros. On est smicard, mais on a tellement d'autres compensations à côté que moi, je préfère être au smic chez moi avec plein de gens qui m'aiment et que j'aime plutôt que d'être smicard dans un bureau avec des collègues que je peux pas souffrir, quoi.
Je peux donner quelques échelles de comparaison.
Oui, tout à fait.
En fait, un accueillant familial, une accueillante familiale qui a une personne accueillie, ça lui fait un complément de revenu, quoi. Ça lui fait un petit appoint à domicile. Avec deux personnes accueillies, ça fait un petit salaire, hein, un bon petit salaire. Avec trois personnes accueillies, ça permet souvent de faire vivre la famille à peine correctement, quoi. Mmh. Maintenant, on se bat quand même pour que... des aides sont accordées aux personnes accueillies. Hein. Les accueillants familiaux n'ont pas droit à des aides. Hein. Et on se bat pour que les conditions d'accueil au niveau tant financier que pratique soit correct, hein. Parce que si je disais que la condition pour accueillir, c'est d'avoir du bonheur à partager, il vaut mieux pas avoir en parallèle de la misère à partager.
Tout à fait pour tous, oui. Quelqu'un qui connaît bien aussi le sujet, c'est Bernard Vérité. Bonjour Monsieur Vérité.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio A.info. Alors, vous, votre association, celle que vous avez créée, est installée dans le Rhône. Un moment de détente.
Oui, tout à fait, oui.
Avec trois objectifs, si on résume. Promouvoir le métier, puisqu'on le disait également avec M. Fromelt, il n'y a pas assez d'accueillants familiaux. Être au service de tous les accueillants familiaux avec la mise en place de remplaçants.
Oui.
Et également la création d'un relais où, cette fois, vous pensez aux accueillants familiaux qui peuvent venir peut-être vous voir pour souffler une journée.
Tout à fait, tout à fait. Ben on a décalqué un petit peu ce qu'on voulait faire pour les personnes âgées sur ce qui se fait pour les assistantes maternelles,
ouais. C'est-à-dire
permettre aux accueillantes familiales de venir au relais avec les personnes accueillies, ben quand elles le peuvent, hein, quand les personnes peuvent être déplacées. Elles nous les confient le matin, on s'en occupe toute la journée, on les nourrit le midi, elles viennent les chercher le soir. Et comme ça, elles peuvent faire leurs affaires personnelles. à aller en course, aller faire les travaux administratifs qu'elle ne pourrait pas faire autrement.
Ça leur permet vraiment de souffler pendant cette journée.
Ça leur permet de souffler, tout à fait, oui. Et on fait, de temps en temps, elles viennent aussi, on fait des accueils le dimanche, exceptionnellement, avec des personnes âgées aussi du quartier, qui viennent aussi le jeudi, et on leur parle de l'accueil familial comme une alternative entre le domicile et le placement en institution.
Monsieur Vérité, notre technicien en chef nous fait de grands signes. Oui. Vous avez un haut-parleur branché sur le téléphone?
Non, je suis sur mon portable. Je peux peut-être enlever l'oreillette, ça sera peut-être plus clair. Je l'enlève, n'inquiétez pas.
On va essayer peut-être comme ça. Monsieur Fromelt, on va rappeler. Monsieur Fromelt, on va rappeler pendant que Bernard se prépare l'adresse de votre site www.famidac.fr, donc pour avoir toutes les informations pratiques, administratives, également les adresses, les forums, les annonces, les échanges, donc sur ce site Famidac. Monsieur Vérité, vous avez remarqué que vous aviez beaucoup de demandes sur l'accueil de jour.
Il y a des demandes sur l'accueil de jour. Malheureusement, ce n'est pas encore rentré dans les habitudes aux institutionnels de proposer l'accueil de jour en famille d'accueil, parce que c'est tout récent, et puis qu'il faut briser un petit peu les habitudes, et puis que ça va se faire de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes. Il y a des demandes de la part d'aides-soignantes, qui veulent vraiment faire de l'accueil familial, mais elles veulent le faire deux jours.
D'accord, c'est-à-dire accueillir chez elles, mais uniquement la journée. Et donc
mais uniquement en journée, tout à fait, oui.
Et donc là, il faudrait une structure pour prendre le relais la nuit.
Voilà. Alors, ça peut être des personnes qui fréquentent déjà des accueils de jour dans des maisons de retraite ou des accueils de jour dans des associations, hein, comme il en existe quelques-unes à Lyon. Là, elles trouvent les personnes que moi j'ai accueillies et puis que j'accueille, trouvent que c'est plus familial, il n'y a que trois personnes, c'est moins structuré. Mmh. Et les accueillis comme les personnes qui ont en charge ces personnes trouvent que socialement c'est quand même mieux.
Monsieur Fromelt, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, hein. Bernard nous le disait, et beaucoup à faire pour l'accueil à domicile, pour l'accueil familial.
Là, on a juste fait un tout petit tour d'une partie des adhérentes familiales, qui en a beaucoup plus, hein. Mais en fait, c'est intéressant puisqu'on a pu aborder l'accueil à titre permanent, l'accueil temporaire, hein, l'accueil intermittent, l'accueil de jour. En fait, l'accueil familial s'adapte, hein, aux demandes, hein, petit à petit. Et l'offre, on espère que l'offre, hein, et la demande vont
pouvoir se rencontrer.
De pair.
Oui, tout à fait. Mais il y a encore du chemin à parcourir, semble-t-il.
Oui, nous sommes en pleine négociation avec le gouvernement pour des révisions du statut des accueillants familiaux, etc. Mm-hmm. Et on a l'impression d'être entendus quand même.
Merci beaucoup, Monsieur Fromelt, pour toutes vos précisions. Merci d'être resté avec nous pendant toute cette émission. Merci à vous, Martine Boire.
Merci. Merci à vous aussi de parler aussi de la famille d'accueil, parce que c'est vrai qu'on existe et que peu de gens nous connaissent.
Voilà, tout à fait. C'est l'objectif aussi de Radio A.info, c'est de parler de vous faire connaître et de vous aider.
Voilà,
Martine Boire, familleencreuse.org. Merci Bernard Vérité également.
Merci bien.
Votre
merci
association. De vous avoir écouté. Longue vie à votre association, un moment de détente.
Je vous remercie beaucoup.
Dans le Rhône.